Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons pour cette nouvelle émission Bernard Michon, historien, maître de conférences à l'Université de Nantes. Et nous accueillons également aujourd'hui, et pour trois émissions, l'historien spécialiste des abolitions de l'esclavage, Marcel Dorigny. Bonjour.
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 Bernard, je vous laisse présenter notre invité.
Marcel Dorigny est maître de conférences honoraire en histoire moderne de l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Il a été membre du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Il a publié et dirigé de très nombreux ouvrages, parmi lesquels je signale à nos auditeurs l'Atlas des esclavages de l'Antiquité à nos jours, publié aux éditions Autrement en collaboration avec Bernard Guénaud. Une première version de cet atlas a été publiée en 2007 et une quatrième édition, revue et augmentée, devrait paraître ces jours-ci aux éditions Autrement. Et puis, par rapport au thème de notre émission d'aujourd'hui, je signale la publication que Marcel Dorigny a réalisée également avec Bernard Guénaud d'un ouvrage intitulé « La Société des Amis des Noirs, 1788-1799, contribution à l'histoire de l'abolition de l'esclavage » aux éditions de l'UNESCO.
Merci pour cette présentation. Alors, pendant ces trois prochaines émissions, nous allons parler donc des abolitions de l'esclavage dans les colonies françaises. Et aujourd'hui, je vous propose d'évoquer ce que l'on nomme le mouvement abolitionniste en France. Alors, ma première question, Marcel Dorigny, que désigne le mouvement abolitionniste en France ?
Alors, ce mouvement abolitionniste, je crois qu'il faut bien distinguer deux phases. Une première période que je qualifierais d'anti-esclavagiste, qui est principalement illustrée par les grands noms des Lumières du XVIIIe siècle, Rousseau, Diderot, bien entendu, Rénal, Diderot étant le plus radical, le plus hostile au principe même de la colonisation, Voltaire, malgré les quelques controverses récentes, et Montesquieu, évidemment, qui a ouvert la voie en 1748. Ces grands penseurs ont écrit des réquisitoires extrêmement violents contre l'esclavage, contre le principe même de l'esclavage, pas contre les abus, pas contre la violence, on ne sait quoi, contre le principe même de la propriété d'un homme par un autre. C'est très clair. Rousseau est clair, les mots esclavage et droit s'excluent mutuellement. Quand il y a esclavage, il n'y a jamais droit. Il y a toujours violence, sur rapport de force, il n'y a jamais droit. Ça n'existe pas. Et puis le mouvement abolitionniste proprement dit, qui vient après, c'est la deuxième génération si l'on veut. Hein. Les grands philosophes des Lumières, et on leur a reproché récemment, je pense aux textes de Salamolins qui sont extrêmement virulents, on leur a reproché d'être en quelque sorte des anti-esclavagistes de salon, de ne pas avoir agi. Ils ont écrit.
Des penseurs.
Des penseurs, voilà, ils ont écrit. Et l'abolitionnisme, c'est la phase suivante, c'est-à-dire prenant acte de l'ensemble du corpus de griefs contre l'esclavage, qui est nouveau quand même dans l'histoire de l'humanité. Hein. L'esclavage avait toujours été légitimé par les églises, par les philosophes, etc. Bon. C'est cette génération nouvelle, suivante, plus jeune, qui d'ailleurs certaines n'ont même pas connu les grands philosophes, c'était mort avant, va entrer dans une action politique. On va créer des sociétés abolitionnistes qui se fixent pour objectif de faire sortir les sociétés coloniales de l'esclavage.
Vous avez évoqué, Marcel Dorigny, la controverse liée à Voltaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, on a beaucoup reproché, enfin dans certains milieux, très militants parfois, on a reproché à Voltaire d'avoir écrit des choses extrêmement violentes contre l'esclavage, mais en même temps d'avoir investi lui-même de l'argent, c'est un homme d'argent Voltaire, il était riche, fils de notaire, etc., d'avoir investi lui-même dans des sociétés, c'était par action on dirait aujourd'hui, d'avoir acheté des parts de navires qui ont pratiqué la traite. Alors c'est très difficile à dire, le capital des sociétés négrières était très dilué, hein, on vendait des centaines et des centaines d'actions pour armer un bateau, ça passait par des notaires, par des agents de change, etc. Est-ce que Voltaire était... On ne sait pas. Ça change en fait pas grand-chose à l'engagement de Voltaire, qui a une portée universelle. Et puis par ailleurs, s'il a été un peu plus mesquin en quelque sorte dans sa gestion personnelle, c'est une autre chose. Ce n'est pas prouvé d'ailleurs, hein, ce n'est pas prouvé.
Vous avez évoqué l'abbé Raynal donc, et son histoire des deux Indes. Alors, il y a toute une polémique également pour savoir si l'abbé Raynal est l'écrivain des parties les plus radicales, hein, des charges les plus radicales en fait, que l'on attribue à Diderot.
Oui, il n'y a pas de polémique. Hein. L'attribution à Diderot est formelle, est définitive et acquise. Déjà à l'époque, Diderot et Pêche-Méjart, hein, mais enfin Diderot est le plus connu, déjà à l'époque du vivant de Raynal et du vivant de Diderot, plus que la rumeur, les gens bien informés savaient que le principal collaborateur de l'histoire des deux Indes, c'était Diderot. Bon, et que les passages les plus violents, les plus virulents, parce que contre le principe même de la colonisation, non seulement l'esclavage, mais la colonisation, venaient de Diderot. Alors ensuite, la polémique s'est un peu assoupie, ça n'a pas empêché la certitude. Ce qui a bouleversé les connaissances, c'est au début des années 1950, quand les papiers de Diderot sont entrés à la Bibliothèque nationale. Parce que Diderot avait légué ses papiers à sa fille, donc en fait à son gendre, qui ça s'est transmis jusqu'au début des années 50. Et maintenant, ils sont à la BNF, les manuscrits, et on a là les manuscrits de Diderot, de la plume de Diderot, des passages de l'histoire des deux Indes. Donc la polémique n'existe plus. Raynal était en fait le maître d'œuvre, était le directeur de la publication, pas l'auteur principal. Lost in the dark for so long, I was blind in my mind, but now I realize I can open my eyes and see it was me all along who was accusing the darkness when I was the one blocking out my sun. I stood for so
vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Marcel Dorigny. Alors, vous nous avez parlé des premiers mouvements abolitionnistes, des penseurs qui ont initié ce mouvement qui est ensuite devenu politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a été relayé? Est-ce que ce fut par la presse, par des cercles de pensée?
Alors, bon, d'abord, première chose à rappeler, c'est absolument fondamental, le mouvement abolitionniste se pense à l'échelle internationale. Tout le monde est persuadé, bien, les gens bien informés bien sûr, que l'abolition dans un seul pays n'est pas possible. Il faut que ce soit une activité, une action internationale. Puisque si on abandonne la traite, l'autre va prendre le marché. Il faut que ce soit concerté. Alors les trois pays, c'est l'Angleterre, qui est en tête du mouvement chronologiquement et quantitativement, si on peut dire. Les États-Unis, ça peut paraître paradoxal, les États-Unis ensuite seront très très en retard, mais en 1975, au démarrage du processus d'indépendance, se crée à Philadelphie la première société pour l'abolition de l'esclavage, avec Franklin à sa tête, Benjamin Franklin. Et puis en France. En France, c'est 88, la Société des Amis des Noirs, qui se présente d'emblée, hein, dès sa création, comme une filiale, en quelque sorte, de la société anglaise, comme une émanation de la société anglaise. Donc c'est la dimension internationale. Alors la diffusion, elle est évidemment très différente selon les régimes, en quelque sorte, de ces pays. En Angleterre, où il y a à la fois la liberté de la presse, où il y a à la fois des élections et un régime parlementaire, la diffusion est massive. En France, c'est plus compliqué. La Société des Amis des Noirs s'est créée sans l'autorisation royale, donc elle est illégale. Hein, on aurait averti, la rumeur nous le dit, qu'on a averti Louis XVI, ce serait Malouet qui serait allé voir Louis XVI, il dit, sire, vous savez ce qui se passe, c'est horrible, ils ont créé une société des Amis des Noirs, ils vont nous ruiner. Louis XVI aurait dit, ah bon, ces pauvres Noirs ont donc des amis à Paris, qu'on les laisse. Donc c'est une autorisation tacite, il n'y a jamais d'autorisation ouverte. Donc l'accès aux grands médias est difficile, c'est le journal de Mirabeau qui va servir de relais, qui va publier les informations sur la société des Amis des Noirs. Donc c'est officieux, mais ça circule quand même. C'est, autrement dit, la censure, à cette époque-là, n'a plus les moyens de s'opposer. L'aurait-elle voulu ?
Alors, Marcel Dorigny, qui sont les membres de cette Société des Amis des Noirs, fondée en 1788 ?
Alors, les fondateurs, c'est Brissot, Jacques-Pierre Brissot, le futur chef des Girondins, le futur chef des Brissotins, comme on disait à l'époque. C'est Étienne Clavière. Alors, Étienne Clavière est un personnage extrêmement important. C'est un banquier. Un grand banquier international, Genevois, Il n'est pas français, il est genevois. Il sera ministre des Finances deux fois en France, mais il est genevois. Il a participé à la Révolution 1782 à Genève, c'est pour ça qu'il a été expulsé de Genève. Et puis, il a été un cofondateur avec Brissot de la société gallo-américaine pour acclimater, disent-ils, les idées américaines, enfin, autrement dit, la République. Ce sont des républicains. Alors, à côté de ces deux pères fondateurs, en quelque sorte, il y a Mirabeau, qui va être un personnage central, parce que Mirabeau a une très grande aura, surtout avec le début de la Révolution et l'Assemblée constituante. Mirabeau sera le grand orateur, c'est lui qui va porter la parole. On va trouver des gens un peu plus effacés, comme Lafayette, qui prendra ses distances. Bon, là, c'est compliqué, Lafayette, parce qu'en même temps, il est propriétaire de plantations en Guyane, par sa femme. Plantations sur lesquelles il a fait des expériences qui devaient aboutir plus ou moins longtemps après à la sortie de l'esclavage, mais ce qui ne s'est jamais produite. Mais Lafayette fait partie de ce mouvement. En gros, cette Société des Amis des Noirs est fondée et dirigée par des journalistes, des écrivains, des nobles libéraux. On n'est pas du tout là dans les classes populaires, pas du tout. Ce sera un des problèmes de l'abolitionnisme français qui ne s'implantera jamais dans les profondeurs de la population. Grande différence avec l'Angleterre.
Et pourtant, justement, au niveau de la diffusion auprès du peuple, on a retrouvé dans les cahiers de doléances, peut-être que Bernard, vous pouvez nous en parler, des
oui,
demandes d'abolition.
Vous proposez dans votre atlas des esclavages une carte
oui.
Qui présente, donc, à partir d'une étude extrêmement minutieuse des différents cahiers de doléances, les cahiers dans lesquels on a trouvé la trace d'une demande d'abolition.
Oui, voilà, c'est intéressant parce que pendant longtemps, on a vécu sur l'idée qu'il y avait un seul cahier qui avait demandé l'abolition de l'esclavage, c'est le fameux cahier de Champagnet, qui a su, les gens de Champagnet ont su très bien médiatiser, orchestrer l'existence de leur cahier, puisqu'ils ont fait une maison de la négritude à Champagnet, etc., parrainé par Léopold Sédar Senghor quand même, hein, c'est pas mal. Mais en fait, quand on creuse de plus, plus près, plus à fond, on s'aperçoit qu'il y a, en gros, entre 35 et 40 cahiers de doléances sur 40 000.
Oui.
Sur 40 000. Hein, qui ont demandé l'abolition de l'esclavage, ou tout au moins une lente évolution vers l'abolition, c'est très variable. Et d'ailleurs, je dois vous dire, par rapport à la carte, là, on a découvert plus récemment un cahier de plus.
D'accord.
Un cahier de plus à une petite ville de Bourgogne, de Saône-et-Loire, dans le bailliage de Charolles, à Toulon-sur-Arroux. Pas confondre avec Toulon dans le Var. Hein. Toulon-sur-Arroux, il y a un cahier de doléances qui demande l'abolition de l'esclavage. Alors, est-ce que c'est le peuple ? Autre problème. Hein. En général, quand on voit de près, on s'aperçoit que c'est un ou deux notables qui avaient des connexions. Le cahier de Champagnet, c'est encore plus direct, parce que c'est un ancien militaire qui a servi dans les colonies et qui était là. Il a dit, mais c'est ce que j'ai vu là-bas, c'est horrible, il faut le dire. Voilà. Alors, pour les cahiers de doléances, Condorcet avait lancé une circulaire à travers tous les bailliages de France, qui n'a pas donné grand résultat.
Nous allons malheureusement devoir nous arrêter là. On va retenir donc que c'était un mouvement d'abord initié par des penseurs et par des politiques et des hommes qui avait une représentation au niveau institutionnel et pas par le peuple. Merci Marcel Dorigny et Bernard Michon. On se retrouve la semaine prochaine et nous parlerons de la première abolition de l'esclavage en France en 1794. Merci aux auditeurs qui nous suivent. Excellente fin de journée. C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la mémoire, avec à la technique José Pasquale.